RCF.
Le réseau wallon de lutte contre la pauvreté partage avec vous chaque mois des enjeux liés à la réduction des inégalités dans notre société.
Pour cette troisième émission au sein du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, on va parler mendicité et squat et on prendra l'exemple de Namur. Bonjour Christine Mailly.
Bonjour.
Alors vous êtes la secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté et aujourd'hui on parle d'une thématique de société, une thématique importante et on reste toujours dans le cadre du non-recours et donc de l'accès aux droits.
Donc oui, on va parler de la mendicité parce qu'effectivement l'accès au droit ou le non-recours au droit, on y pense habituellement pour des personnes qui vivent dans une habitation, qu'on a l'impression déjà inscrite dans la société. Or, le non-recours, il est nécessaire pour tout le monde, y compris pour les personnes qui sont amenées à un moment donné à vivre dans la rue, quelle que soit leur histoire, quelles que soient les raisons pour lesquelles il se fait qu'elles vivent dans la rue et que dans la rue, elles puissent, pour un certain nombre d'entre elles, pas toutes, mais avoir recours à la mendicité pour vivre. Alors encore plus, j'ai envie de dire, quand on est fragilisé au point de ne pas avoir un chez soi, un toit, une adresse, et donc le risque que l'on court de perdre une série de droits, on peut perdre sa pension, on peut perdre son revenu d'intégration sociale, on peut perdre son chômage, on peut perdre la relation avec ses enfants, etc., etc. Encore plus, l'accès aux droits est important. Alors, la question que se pose le réseau, c'est comment les institutions, comment les professionnels, comment le système doivent être facilitateurs d'accès aux droits en respectant le cheminement des personnes compte tenu de la combativité qu'elles ont malgré le fait qu'elles vivent dans la rue. Parce qu'on pourrait croire qu'elles n'ont plus de combativité parce qu'elles y sont, mais elles sont encore en train de survivre, de se battre, de se débrouiller pour arriver à tenir. Eh bien, comment toutes ces institutions, tous ces appareils, tous ces systèmes doivent être des facilitateurs et pas, j'ai envie de dire, des entraves, des problèmes et des ajouts de difficultés supplémentaires pour retrouver un certain nombre de droits en fonction du cheminement de la personne.
Donc c'est vraiment votre politique en interne, c'est de trouver des pistes de réflexion pour faire évoluer cette situation en sachant, comme on l'a déjà dit dans d'autres émissions, qu'il y a plus en plus de personnes qui sont en marge de la société puisque la société ne s'adapte plus vraiment à la réalité sociale.
Oui, il y a de plus en plus de gens en grande difficulté, qui sont dans un dénuement matériel, financier, mais qui sont aussi confrontés à une société où trouver du logement, c'est difficile, avoir du boulot, c'est difficile. Lorsqu'on a des clashs dans la vie et qu'on peut vivre une séparation, des difficultés diverses, etc., on est très vite déstabilisé puisqu'on est en face d'une société rouleau compresseur qui va très vite, qui est exigeante, qui ne permet pas le temps du souffle aux gens, etc. Et donc on a des gens qui peuvent tomber dans le désœuvrement général. Donc on doit s'en inquiéter absolument. Et donc la position du réseau, en tout cas, elle est très claire qu'une fois que les gens sont dans la rue, comment tout le monde doit être avant tout un levier, comment chaque institution doit d'abord se mettre à disposition du cheminement de la personne pour qu'elle puisse progresser, pour essayer d'aller vers ce qui est possible pour elle et ce qu'elle souhaite, et comment en plus on ne mettra pas, on n'ajoutera pas de difficulté à la difficulté, donc comment on n'ajoutera pas des règlements mendicité, comment on n'ajoutera pas le fait qu'on n'a pas envie de les voir, comment on n'ajoutera pas le fait de criminaliser leur présence dans la rue, même lorsque tout va très bien, et dans la majorité des cas, tout va très bien. Il y a des exceptions, mais dans la majorité des situations, les choses ne posent pas problème. Donc voilà. Comment est-ce qu'on n'ajoute pas de la difficulté et comment est-ce qu'on reconstruit du droit ?
On peut se baser sur des exemples concrets et récents, puisque pendant l'hiver, on a connu par exemple cette fameuse, ce décret ou cette loi, je ne sais plus très bien comment c'était, mais c'est une application communale, en tout cas, de dire qu'on allait faire une arrestation administrative des personnes qui étaient dans la rue pour les protéger du froid. Oui. Mais c'est quand même à double tranchant.
Oui, tout à fait. Et donc là, on pourra en parler directement.
Tout à fait.
Donc, il y a à la fois cette espèce de peur momentanée parce que tout le monde a froid et que tout le monde serait mal à l'aise de savoir qu'il y a une personne qui, etc., etc. Mais c'est le malaise du décideur, c'est le malaise de la population parce que les gens qui sont dans la rue, ils meurent toute l'année dans la rue, comme ils vivent toute l'année dans la rue, comme ils trouvent des solutions toute l'année dans la rue. Et donc, il y a une forme, je vais dire, de peur qui conduit à une sorte de décision avec une certaine hypocrisie, parce que si on réglait en amont toutes les difficultés qu'il y a dans la société, il y aurait de moins en moins de gens qui auraient la nécessité ou le recours ou l'obligation ou le non-choix d'arriver dans la rue et d'être en difficulté. Donc c'est clair que ça, c'est des décisions avec lesquelles nous ne pouvons pas être d'accord.
Et donc dépasser cette culpabilité que pourra avoir le citoyen belge. Oui. Alors justement, autour de cette table, on accueille également Ludic Simon. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes... comment est-ce que vous pouvez vous définir d'ailleurs ?
Moi, je suis clochard. C'est-à-dire que j'habite à la cloche. Et habiter à la cloche, ça veut dire habiter à la belle étoile, pour retirer un peu le sens péjoratif du mot.
Oui, c'est très joli en fait, c'est très poétique. Hein.
Voilà, tout à fait.
Alors justement, si vous êtes autour de la table, parce que vous êtes médiatisé, malgré vous peut-être, depuis un certain temps, et dans un autre sens, parce que vous menez ce combat justement pour non pas faire sortir les gens de la rue, mais plutôt pour sensibiliser aux difficultés que vous pouvez rencontrer sur le terrain, et vous menez ce combat avec l'aide du réseau Wallon pour la lutte contre la pauvreté.
Contrairement à beaucoup de personnes, j'ai choisi de vivre à la rue. Et je vois qu'actuellement, de plus en plus de gens viennent à la rue et n'arrivent plus à en sortir parce que justement, les CPS mettent de plus en plus de clauses restrictives. Sur un temps, on nous a interdit de mendier à Namur. Puis maintenant, il y a la loi de pénalisation du squat, et de la criminalisation du squat. Et bon, le dernier décret qui est parti de M. De Wolf par rapport au fait des arrestations administratives et de l'obligation de soins, il faut d'abord savoir que quand on nous dit qu'on est obligé d'aller à dormir à l'abri de nuit, c'est d'un point de vue santé. Donc si on est trop malade que pour vivre à la rue, pendant l'hiver, on est trop malade pour y vivre tout le temps, pour moi.
Oui, c'est ça. En fait, la problématique est beaucoup plus large que ce qu'on laisse croire.
Bien sûr, bien sûr.
Et ça, c'est un combat du quotidien pour vous ?
Ben, moi, mon combat quotidien, c'est surtout d'aider mes amis qui se retrouvent à la rue actuellement pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver des invendus, pour aller chercher des attestations par rapport au CPAS, pour pouvoir leur donner des noms de propriétaires éventuellement, tout ce que le CPAS actuellement ne fait pas, car ils ont un devoir de publicité qu'ils ne remplissent pas.
C'est ça, mais avec cette problématique qu'on vous interdit le squat, entre guillemets, parce qu'il faut bien définir aussi ce qu'est le squat, parce que des bâtiments inexploités, est-ce qu'ils ne sont pas justement là pour vous accueillir en cas de nécessité ?
Ben, disons qu'il y a deux lois qui se contredisent, c'est le droit au logement et le droit à la propriété. Le droit au logement, pour un particulier, je veux bien l'entendre et je le conçois tout à fait, parce que des personnes peuvent être en difficulté pour restaurer un bien ou par rapport à un héritage ou quoi que ce soit. Mais quand l'État revend des biens et qu'il ne loge pas ses SDF, je suis désolé, on a le droit à l'habillement, à la nourriture et au logement. Et l'État actuellement ne donne pas droit à cela.
Et c'est là qu'on recadre tout à fait avec le non-recours, puisqu'on parle de droit et d'obligations d'un autre côté. Et c'est là que c'est complexe, en fait, Christine.
Oui, oui. Ben, la complexité, c'est celle que Ludwig vient de bien expliquer. Hein. C'est qu'on parle dans notre Constitution qu'il y a le droit au logement. Ce droit au logement, il est inscrit depuis je ne sais plus combien de temps. On l'a fêté le Xème anniversaire il y a quelques années. Et ce droit au logement n'est plus garanti aujourd'hui. Il n'est plus garanti parce qu'il y a trop peu de logements sociaux, parce que le logement privé est coûteux et pas accessible à tout le monde, parce que les manières d'habiter mettent les gens en difficulté. Notre fameux statut cohabitant qui existe dans notre pays, qui fait qu'on peut jouer de la solidarité en vivant à plusieurs sous un même toit, sauf que si on est chômeur, on va perdre une partie de son revenu. Si on est bénéficiaire du RIS, on va perdre une partie de son revenu. Si on est bénéficiaire d'une allocation d'invalidité, on a risque de perdre une partie de son revenu. Donc on a à la fois des difficultés d'accès à un logement par la quantité, la qualité et le prix, mais on a aussi une législation qui handicape la solidarité collective des personnes qui peuvent décider de vivre ensemble. Et donc ça, c'est deux droits qui... c'est des éléments qui empêchent l'application de ce droit au logement. Maintenant, se retrouver dans la rue n'est pas qu'une question de logement. Hein. Il y a des tas de raisons qui font que les personnes arrivent dans la rue. Mais à un moment donné, le passage par un logement dans la reconstruction peut être la solution. Et donc, il y a notamment, pour rechercher à appliquer le droit au logement dans notre société, des organisations, des associations qui développent des dynamiques d'accès à un logement sans condition, par exemple, pour des personnes qui sont dans la rue, en les accompagnant pour leur permettre de recomposer ce que sera le cheminement dans leur vie. Mais il y a aussi des personnes qui décident de s'auto-organiser, notamment en occupant, comme le disait Ludwig tout à l'heure, un bâtiment public qui est vide, et en se disant on va se donner une forme d'organisation, on va décider comment on s'organise et on va reconstruire du projet collectif, on va mettre ensemble des connaissances et des compétences, on va peut-être accueillir des gens plus faibles que nous, etc. Il y a des exemples qui existent en Belgique et en Wallonie de ce type-là, mais aujourd'hui, de nouveau, perte de droit, on sanctionne l'initiative des personnes qui vont mettre ça en place. Et donc on est tout le temps sur cette tension d'un État qui finalement ne fournit plus ce qui est nécessaire aux gens pour pouvoir accéder aux droits, et en même temps qui empêche les gens de construire des dynamiques qui leur sont propres avec de l'innovation pour solutionner des problèmes que l'État ne solutionne plus.
Eh bien, je vous propose de continuer ce très beau débat, ces explications, après une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite. On parle toujours mendicité et squat avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, et on a la chance d'avoir quelques invités de marque autour de la table. Donc Christine Mailly, vous êtes secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. On a également Françoise Minguet. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors vous vous occupez, vous êtes coordinatrice de tout ce qui est mendicité, squat aussi pour le réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Oui, c'est ça. En fait, moi j'ai commencé un petit peu l'année passée par rapport au règlement mendicité. Donc on m'a demandé ici au réseau wallon de faire une recherche sur ce qui existait en règlement mendicité sur les diverses communes de Wallonie pour qu'on puisse avoir un regard un peu objectif, parce que les règlements mendicité, c'est les règlements communaux qui dépendent des règlements généraux de police, etc. Et donc c'est un peu compliqué parfois de s'y retrouver. De commune en commune, il y a tout et son contraire. Et donc, on a essayé un petit peu d'avoir une vision globale des règlements mendicité en Wallonie. Et c'est ici que je suis intervenu au niveau des recherches pour savoir ce qui était en place. Et maintenant, on travaille plus à la vision qu'on peut avoir par rapport à la mendicité. C'est quoi mendier? C'est qui? Pourquoi? Etc. Et on a régulièrement des réunions de travail pour mettre en avant ce type de questionnement.
On a vu, c'est nécessaire, on l'a vu encore cet hiver, pour revenir sur l'exemple de cet hiver, les communes ne voulaient pas appliquer le même règlement. Enfin, donc on voit déjà que tout le monde n'est pas d'accord sur la même chose. Donc c'est d'autant plus complexe d'y comprendre quelque chose pour le citoyen lambda.
C'est d'autant plus complexe, d'autant plus qu'un règlement mendicité, ça stigmatise quand même énormément la personne à la rue. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des règlements différents pour des personnes qui sont des citoyens à part entière? Qu'est-ce qui dérange dans le fait que quelqu'un, à un moment donné, soit assis sur un coin de trottoir et tende la main? C'est la vision aussi que les personnes ont de la personne qui est occupée à tendre la main. Moi, je me rends compte, depuis que je travaille sur la problématique, même déjà avant, mais je m'arrête souvent, je parle avec les gens qui font la manche, des SDF, etc. Et en fait, c'est des personnes qui ont énormément de ressources, de richesses. Et le simple fait de leur adresser la parole, tout simplement de dire bonjour, parfois, ça change la face des choses pour ces personnes-là la journée. C'est des gens qui sont invisibilisés par cette société. Enfin, en fait, on les sort quand ça arrange pour montrer, regardez ce que vous risquez si vous ne rentrez pas dans le cadre. Vous risquez de vous retrouver à leur place, mais aussi c'est des personnes qu'on ne voit pas. Des gens qui sont assis sur un coin de trottoir, ils ne sont pas à la même hauteur que les autres dans la société à l'heure actuelle.
Et c'est ça, cette question du jugement aussi, de dire le regard que l'on peut avoir face à la mendicité, face aux mendiants, puisqu'apparemment le terme ne vous gêne pas, Ludwig, mais c'est vrai que ce regard, il faut peut-être casser un peu aussi ces a priori, ces choses très subjectives qu'on peut avoir par rapport à la mendicité.
Il ne faut pas oublier que mendier est autorisé en Belgique, mais que chaque commune met un règlement autour de cela. Donc chaque commune, suivant les a priori de ses citoyens ou bien de ses gens politiques, décide de mettre des règlements qui sont dans les RGP, qui sont généralement de ne pas boire, de ne pas avoir de chiens dangereux, de ne pas... Tous des règlements qui sont pour tous les citoyens. Et donc on fustige également la personne qui est en train de pratiquer la mendicité. Et pour moi, la mendicité, c'est plus que de s'asseoir au pied d'un trottoir. C'est le fait de pouvoir demander à son voisin du sucre si on en a besoin. c'est le fait de dire à nos enfants qu'on partage, on inclut le partage dans l'éducation de nos enfants, à un moment donné, que ce soit un bourgmestre ou quelqu'un politique, dit non, tu n'as pas le droit de le faire dans telle ou telle condition. Comment expliquer ça à un enfant? Comment pouvoir changer le regard des gens par rapport à ça?
C'est une question d'éducation.
Déjà, c'est une éducation permanente. Bon, il faut savoir que quand on est à la rue, quand on va au CPS ou bien dans n'importe quelle structure en général, on lui dit, ben, revenez dans 15 jours quand vous aurez prouvé que vous êtes bien à la rue. Ça, oui. C'est déjà un gros problème. Quand on téléphone à un propriétaire, ah non, caution CPS, on n'en veut pas. Ah non, logements sociaux, on n'en veut pas. Les agences immobilières, vous êtes du CPS? Non, 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 on ne peut pas vous prendre. C'est trop dangereux. Il y a un moment donné, on nous oblige à trouver d'autres solutions qui sont le squat, l'habitation en yourte, l'habitation en caravane, en tente. On essaye de se débrouiller comme on peut parce que justement l'État nous met de plus en plus de lois et de règles qui sont totalement restrictives et on n'y arrive plus.
Et c'est un peu un cercle vicieux parce que vous parlez justement de vous adresser à des propriétaires, mais comment justifier que vous avez les documents administratifs nécessaires aussi et quelle démarche entreprendre quand on est sans domicile fixe, donc du coup sans adresse de référence également? C'est un cercle vicieux parce que vous avez pu accès à certaines choses sans avoir de domicile.
Non seulement on n'a accès à rien quand on n'a pas de domicile, mais si la commune nous refuse une adresse de référence, il faut savoir qu'on n'a même pas le droit à une carte d'identité alors que toute personne sur le territoire belge est obligée d'avoir des papiers en règle. Donc, c'est toujours, entre guillemets, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on est dans nos droits, ou bien on n'est pas dans nos droits, mais on est toujours sur une corde raide, à courir après des papiers, à aller chercher auprès des gens quelle est la bonne information, qui dit la bonne chose, où est-ce qu'on peut aller pour manger, pour se nourrir, pour se vêtir. Quand on est prisonnier, par exemple, comment est-ce qu'on peut aller dans un abri de nuit, alors qu'on nous demande de ne pas fréquenter d'autres prisonniers? Il faut savoir ça aussi. Il faut savoir que la mendicité, il y a des gens qui travaillent également, qui pratiquent la mendicité, qui n'ont plus les moyens actuellement de terminer leur fin de mois parce qu'ils gagnent 1100, 1200 euros et qu'ils ont un plafond barémique au CPS ou dans d'autres institutions qui est de 1200 ou 1300 euros et ils n'ont pas le droit pour 2 ou 3 euros en plus à des aides que l'État promet à d'autres personnes. Et ça devient juste impossible, à force de mettre des barèmes surtout, et surtout ne pas reconnaître que le seuil de pauvreté, il est actuellement beaucoup plus élevé que le taux isolé du CPS. Je suis désolé, il y a un moment donné, il faut qu'on se rende compte des choses.
Et quelque part que la mendicité est parfois une nécessité, parce qu'on ne sait plus faire face aux situations quotidiennes. Quoi.
Mais comment voulez-vous faire, à partir du moment où vous vivez à la rue, que le CPS vous dit de revenir dans 15 jours, on vous donne des bons pour aller chercher des colis alimentaires, quand vous vivez en tente, vous n'avez pas de quoi les chauffer, vous pouvez aller chercher un repas, mais à côté de ça, vous n'avez pas le droit d'aller acheter du tabac. Vous n'avez plus aucun droit, on vous dit ce que vous devez faire. Il y a un moment donné, on essaie de reprendre notre vie en main et on est pénalisé pour ça, on est criminalisé, que ce soit par rapport au squat, par rapport à la mendicité et même par rapport au fait de vouloir vivre dehors à un moment donné parce que les abris de nuit ne sont plus actuellement...
Ils ne correspondent plus
à la réalité des choses. À une certaine réalité. Ici, il faut savoir qu'ici à Namur, nous avons un abri de nuit qui est de 31 personnes. Il est plein quasiment toute l'année. En hiver, bon, ben, il y a le plan hiver. Il faut savoir qu'il y a 70 morts par an dans la rue, chaque année. En hiver, on ne peut pas avoir vraiment de chiffres, justement, à cause du plan hiver où on aide les gens. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on a le plus de morts. On a le plus de morts, en général, entre le mois de juin et le mois d'octobre.
C'est interpellant, quand même.
Ah, ben, je trouve. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces mois-là?
Oui, ben par rapport à tout ce que Ludwig vient de donner comme exemple, qui sont extrêmement éloquents et qui sont du concret quotidien, la manière dont Françoise aussi exprimait très bien la réalité des combats menés, ben, la tentative d'acteurs comme le réseau et d'autres, hein, on n'est pas les seuls, c'est d'essayer précisément qu'un certain nombre d'obstacles soient levés. On parlait de l'adresse de référence, c'est incroyable dans ce pays. Il y a des années qu'on est en chantier sur l'adresse de référence et qu'au niveau de nos gouvernements fédéraux successifs, il n'y a pas encore eu de solution. Alors il y a un groupe de travail pour le moment, le Premier ministre reçoit, etc. Mais on espère que ça va aller dans le sens de ce qui correspond aux nécessités des personnes dans la rue et pas dans le sens de ce que l'administration considère qu'il soit bon de faire. Le problème n'est pas de laisser faire aux gens qui sont dans la rue tout ce qu'ils veulent, mais c'est que les solutions qui sont construites partent de leur réalité, de leur possible, de leur cheminement, de comment ils voient l'évolution dans la vie, comment ils voient leur vie, etc. Et un des reproches qu'il y a à faire à un certain nombre d'acteurs qui prennent des décisions par rapport aux personnes qui vivent dans la rue, qui sont contraintes à la mendicité, qu'elles vivent dans la rue ou pas, hein, comme tu le disais, il y a des gens qui travaillent, qui ont un toit et qui à certains moments du mois mendient pour arriver à s'en tirer. Eh bien, un des reproches qu'on a adressé aux décideurs, à ceux qui formulent les lois, etc., c'est de se passer beaucoup trop de la parole des premiers concernés, de l'expertise des premiers concernés. Donc plutôt qu'avant de prendre une décision, ce qu'il serait intéressant de faire, c'est de se dire comment est-ce qu'on va aller parler avec ceux qui sont concernés pour voir par quel fil il est intéressant de mettre les choses en place pour que ça leur convienne. Il y a une espèce d'impression aussi de disqualification totale de la personne qui est dans la rue, parce qu'elle est dans la rue, elle ne serait plus capable de penser seul et collectivement, à ce qui est bon de mettre en place pour solutionner les problèmes. C'est ça qu'il faut inverser absolument. Ça, c'est une des particularités du réseau, c'est de travailler, si possible, de cette façon-là. Et de se dire, on n'est pas les spécialistes qui savent tout, on doit parler avec les gens qui vivent dans le trop-peu durablement depuis longtemps, y compris qui vivent dans la rue, y compris qui doivent avoir recours à la mendicité, etc. Et c'est avec eux qu'il faut faire des propositions intéressantes et constructives.
Allez, on se retrouve tout de suite au sein du réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Veux-tu me prêter ton histoire ? Veux-tu me prêter ton village ? Veux-tu me prêter ton enfance ? Veux-tu me prêter tes parents ? Juste le temps de voir. Le temps de voir. Juste le temps de voir.
Le temps de voir. Alors, Ludwig Simon, vous êtes notre invité également. Vous êtes mendiant, puisque c'est comme ça que vous vous êtes défini.
Tout à fait.
Mendiant de l'année.
D'humanité, je préfère.
D'humanité. Non, mais c'est très chouette de pouvoir vous avoir aussi ici, parce que vous témoignez réellement de ce qui se passe sur le terrain et vous apportez justement des pistes de réflexion pour faire évoluer la société et le réseau wallon de lutte contre la pauvreté dans ses démarches. Alors j'avais envie de vous poser cette question de l'accès à la santé, puisque c'était le thème de notre dernière émission avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Comment ça se passe quand on est mendiant, quand on est dans la rue, qu'on vit dans un squat? Comment peut-on avoir accès aux soins de santé?
C'est déjà de plus en plus difficile. Bon, les maisons médicales sont surchargées. Mais ce qui est de plus en plus difficile, c'est d'avoir accès au CPS et de demander justement l'aide médicale d'urgence. C'est-à-dire, si on est éclopé, si on est malade, on est quand même obligé de faire 3 à 4 kilomètres pour pouvoir aller chercher ce papier-là, prouver, entre guillemets, nos revenus, qu'on n'a pas dépensé notre argent à tort et à travers. Et seulement à ce moment-là, on nous accorde ou pas la visite chez un médecin ou le remboursement de nos soins de santé. Il y a un moment donné, il faudrait que par rapport à un simple coup de téléphone, comme toute personne fait avec son patron, on puisse aller voir un médecin, on puisse aller chez un pharmacien, et qu'on se rende compte que des fois aussi, nos problèmes d'addiction, ce sont des problèmes de maladie. C'est-à-dire que l'alcoolisme et la prise de drogue, ce sont des maladies. On a beau dire, entre guillemets, que c'est mal de boire dans la rue, de fumer dans la rue ou de se droguer dans la rue, il ne faut pas oublier que ce sont des maladies qui sont souvent très très difficiles à être soignées. Et il faut se rendre compte aussi que dans la rue, actuellement, il y a 60% de personnes qui souffrent de maladies psychiatriques, que ce soit la paranoïa, la schizophrénie, le burn-out. Tous ces gens-là se retrouvent à la rue à un moment donné, aussi par rapport à des problèmes de santé qu'ils n'arrivent pas à résoudre.
Et donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur pied pour pouvoir donner plus facilement l'accès ? Enfin, moi, je suis horrifié d'entendre ce que vous racontez, hein. J'imagine pas. Enfin voilà, ça semble normal pour tout le monde d'aller chez le médecin quand vous êtes pas bien, voilà, que vous êtes malade. Mais c'est quelque chose qui est très complexe en fait.
Oui, en fait, moi je me suis rendu compte en fréquentant un petit peu ces personnes qui sont dans la rue que c'est extrêmement compliqué les solutions. Je sais, bon, pour moi une gratuité des soins de santé devrait être évidente pour tout le monde. Maintenant, c'est clair que la santé est aussi un marché qui doit être rentable, et là, on a de gros soucis. Moi, j'ai rencontré un monsieur dans la rue qui a subi une trachéotomie, qui a le sida, qui a des addictions, et qui était avec une pathologie, clairement, il faisait une infection carabinée, donc il faisait de la fièvre. Et j'arrive et je lui dis bonjour, et je lui dis « mais tu es brûlant ». J'ai dit, mais tu n'irais pas à l'hôpital dans l'état où tu es, c'est pas possible de te laisser comme ça. Et il m'a dit, non, je ne suis pas assez malade. Si j'y vais maintenant, ils ne me garderont pas. Il faut que j'attende d'être encore plus malade pour pouvoir aller me faire soigner à l'hôpital. Et là, à un moment donné, on se rend compte de l'état du système de santé dans lequel on vit. Ou quand les personnes vous disent qu'ils ne sont pas assez malades que pour aller à l'hôpital quand ils sont dans des états de santé avec des pathologies pareilles. Ici, quand les personnes essayent d'avoir des accès à la maison médicale, ils n'en ont pas. Les trois quarts du temps, les maisons médicales sont pleines. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'avancer de l'argent pour des traitements en pharmacie parce que le médicament n'était pas remboursé et que le CPS ne voulait pas prendre en charge les frais de médicaments. Il m'est arrivé plusieurs fois de payer les médicaments pour certaines personnes à la rue.
Il faut savoir qu'actuellement, tout ce qui est médicaments, qui est médicaments de confort, qui sont l'aspirine, qui sont les anti-inflammatoires en pommade, tout ça n'est pas remboursé par le CPS. Donc on n'a pas le droit de prendre de l'aspirine, on n'a pas le droit, entre guillemets, je vais donner une marque, de prendre du Flexium Gel ou du Voltaren pour pouvoir soigner une foulure. Tout ça parce que, entre guillemets, ce sont des médicaments de confort.
De luxe, quoi.
De luxe.
Mais évidemment. Et justement, ça me fait penser à autre chose, l'accès aux mutualités. Je suppose que quand vous êtes dans la rue, il n'y a plus de soutien d'une mutualité, alors?
Nous avons en fait deux solutions. Soit nous adressons à la CAMI, qui est une assurance complémentaire, soit nous adressons au CPS afin de pouvoir régler les dettes que nous avons par rapport à la mutuelle. Mais il faut savoir que quand vous vivez à la rue, que vous n'avez plus de mutuelle, que il y a des fois, pour récupérer une mutuelle, vous devez payer 2 ans en arrière, non seulement votre quote-part, mais également la quote-part de l'État ou de l'employeur que vous n'avez pas. Donc pour pouvoir récupérer une mutuelle alors que ça fait 2 ans que vous êtes à la rue, il faut déjà payer 2000 euros avant de pouvoir vous soigner.
Que vous avez évidemment puisque vous êtes à la rue.
Tout à fait. Voilà.
C'est un exemple de logique.
Oui, ben ce que démontrent les apports de Françoise et de Ludwig ici autour de la table, c'est qu'il y a une absolue nécessité de toucher à un certain nombre d'éléments organisationnels. Quand les personnes sont dans la rue, on ne devrait pas être dans la danse des Sternac, hein, un pas en avant, 3 pas en arrière, revenez demain, revenez après-demain, vous n'avez pas le bon papier, vous devez repasser ailleurs, etc. Mais on le voit, ça veut dire qu'il y a aussi à soutenir des organismes qui sont intéressants. François citait les maisons médicales. Les maisons médicales, c'est un très bon dispositif. Il en faudrait beaucoup plus. Il faudrait beaucoup plus de maisons médicales qui permettent l'accès aux soins de santé. Effectivement, au niveau des CPS, Ludwig donne des exemples de médicaments qui ne sont pas remboursés ou de « il faut attendre, il faut revenir », etc. Mais on a au niveau des CPS en Wallonie, mais en Belgique en général, l'autonomie communale, comme on appelle ça, c'est-à-dire chaque CPS peut réagir comme il veut. Alors, le CPS peut décider de rembourser ou de ne pas rembourser, etc. Quel est le temps qu'il a à consacrer aux gens? Comment est-ce qu'il va écouter le besoin de la personne? Comment est-ce qu'il va encore accorder aussi de la confiance, surtout à la personne, pour écouter ce que la personne sent qui est bon pour elle à ce moment-là? Et pas seulement entrer dans des lignes administratives de plus en plus codifiées qui s'imposent à eux, émanant du fédéral ou émanant parfois de l'orientation politique du Conseil de l'aide sociale, etc. Tout ça est variable. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense que ce qui est dit de façon importante par Françoise et Ludwig, c'est les gens qui sont dans la rue, ils ne cherchent pas à être dans la merde.
Ils voudraient sortir,
être collaborants à une dynamique qui permettra de s'en sortir en termes de santé, etc. Mais malheureusement, ils ne sont pas entendus de cette façon-là. Ils sont plutôt vus comme un problème a priori qui est encombrant, qui est compliqué, qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à régler en termes de droit. C'est juste la vision inverse qu'il faudrait prendre, c'est de dire comment sont-ils les premiers alliés de leur évolution si le système se met à disposition par des soins de santé accessibles, par un accès au logement, par une écoute attentive de la personne, par un respect de qui elle est, par le fait qu'on croit encore dans ses potentiels.
Bon, ben, j'ai envie de conclure malheureusement. Ah oui, Ludwig, vous voulez encore un...
Moi, j'aimerais juste revenir un peu sur ce que Christine dit. Bien sûr, on a des droits. Mais à la place de devoir réclamer nos droits, est-ce qu'on ne pourrait pas nous les donner directement? Nous ne connaissons pas la moitié de nos droits, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Et nous devons réclamer, nous devons chercher des infos à un moment donné. Il faudrait nous accorder les droits que nous donne l'État belge plutôt que d'aller les demander, tout simplement.
Oui, et être mieux informé. Voilà. Bon, malheureusement, on a vraiment, vraiment plus le temps. On va devoir se quitter. J'ai envie de clôturer cette émission en disant merci à tout le monde d'avoir été présent. Et puis surtout, quand vous allez vous balader en rue, vous allez tomber sur un mendiant, hein, sur une personne qui vit dans la rue, dites-lui bonjour d'abord et puis enclenchez la discussion. C'est très intéressant, on l'a découvert aujourd'hui. On se retrouvera bientôt.
Oui, bien sûr.
Sur le terrain, évidemment.
Je préfère.
Christine, à dans un mois.
À bientôt.
Le temps de voir. Prête-moi tout ce qui t'appartient. Prête-moi ta voiture et prête-moi ton chien. Prête-moi tes fringues et puis prête-moi tes pompes. J'en aurai que pour quelques secondes, juste le temps de voir.